Revenons à l'instant présent. Nous sommes dimanche le 28 octobre 2018 et nous sommes à la Villa Saint-Martin pour notre 20e retraite, dernier jour de la retraite, le Sutra du Diamant. Le 18 décembre 1997, j'étais au village des Pruniers, et Thay enseignait le discours sur l'amour. Alors, hier, quelqu'un a demandé une question sur sur l'amour dans notre tradition. Et je voudrais vous remercier pour ça. Quand nous sommes dans une pratique, quand nous étudions, des fois nous perdons le nord, parce qu'on est trop pris dans... Et je n'ai pas pu dormir hier soir, comme Pierrette. C'est une question qui m'a tenu éveillé. Parce que l'amour, c'est l'objectif de notre pratique. Nous pratiquons afin de pouvoir être l'amour. Alors, ce matin, je me suis levé à l'heure. Mais j'étais arrivé ici en retard parce que je voulais recevoir mes amis avec un pot de café. Et comme je n'ai pas l'habitude de le faire, j'ai fait un peu de dégâts dans la cuisine. Et j'ai essayé de le ramasser. Et puis même avec ça, donc c'était pour m'excuser pour mon retard. Et en m'en venant ici, après cette joyeuse célébration de nos nouveaux ordinés, j'étais très heureux. Et l'amour me revenait. Et il y avait un air qui montait à l'intérieur de moi. Et c'est la chanson « Parlez-moi d'amour ». Alors je ne sais pas, le monde de les gens de ma génération connaissent cette chanson. Tu es trop jeune pour ça, Sylvie. Ça fait des souvenirs très tendres et ça réveille beaucoup de nostalgie aussi. Et ça chante un amour qui fait souffrir. Mais l'amour que nous pratiquons dans le bouddhisme est un amour qui ne fait pas souffrir. Et c'est peut-être cela la différence. Et donc on pourrait maintenant, avec notre pratique, changer un peu les paroles de la chanson pour pouvoir traiter. Parce qu'au village Les Pruniers, dans ce temps-là, on prenait des chansons populaires du Vietnam. Et les chansons populaires du Vietnam, c'est un peu comme... les chansons romantiques en français, ça parle d'amour, mais ça parle d'amour qui fait souffrir. Et Thay dit, on peut les adopter, et puis lorsqu'on les adopte, ils vont se transformer. Alors on a pris beaucoup de ces chansons populaires et on a fait des chansons de pratique. Et je pense que c'est une bonne pratique parce que l'air nous est connu, alors donc ça devient familier. Mais si on change les paroles pour en faire une pratique, un enseignement, ça aide à mieux pratiquer avec notre background, avec notre histoire, mais également avec nos nouveaux apprentissages pour permettre aux graines de mieux fleurir. Vous savez, on a très très peu de temps, même si c'est une retraite de 4 jours, Et c'est un luxe de pouvoir avoir une retraite de 4 jours. Beaucoup de mes sanghas maintenant ne peuvent se permettre que 2 jours ou 3 jours. Alors qu'on puisse avoir 4 jours, c'est superbe. Et la nouvelle qu'on doit vous annoncer peut-être bientôt, c'est que peut-être qu'on devra raccourcir la retraite pour une question de sous. Cette retraite, on n'a pas perdu d'argent, mais presque. Et il y a des personnes qui n'ont pas pu venir parce que ça dépassait leurs moyens. Alors on va essayer de trouver des façons de réduire des coûts. Et l'une des façons, on a pensé, c'était raccourcir la retraite. C'est triste, mais peut-être qu'on devra le faire. Donc, parlez-moi d'amour, ou bien le sutra sur l'amour, c'est Karaniya Metta Sutta. Karaniya veut dire ce que nous devons faire. Metta, c'est l'amour. Et sutra, c'est enseignement. Donc, l'enseignement sur ce que nous devons faire pour pouvoir atteindre l'amour. L'amour selon l'enseignement du Bouddha. Et ce sutra a été délivré suite à une mauvaise expérience que les moines ont dû vivre. Les moines étaient revenus dans cette forêt pour pouvoir être avec leur maître et pour une retraite d'hiver. Et lorsqu'ils se sont établis dans cette forêt, ils dérangeaient les âmes qui y habitaient. Ces âmes qui habitaient ces forêts se sentaient invaded, envahies par ces moines. Et leur faisait toutes sortes de mauvais trucs pour les chasser de là. Alors donc, il y avait des bruits, des apparitions, toutes sortes de choses pour effrayer les moines. Et les moines qui étaient là n'étaient pas très solides dans leur pratique, donc ils avaient très peur. Et ils l'ont rapporté au Bouddha. Il dit, Bouddha, on ne peut pas rester dans cette place-là, on n'a pas de paix, ils viennent nous déranger. Et c'est là que le Bouddha leur a appris cet enseignement pour leur permettre de pouvoir pacifier les âmes qui étaient là et pouvoir continuer d'habiter à cette place-là et pratiquer. Alors il y avait 2 aspects dans cet enseignement. Le premier, c'était comment vaincre nos peurs. S'enfuir et aller dans une autre forêt n'aurait pas réglé le problème. Parce que ce ne sont pas tellement les apparitions que la peur qui est en nous. Alors la peur est une graine qui est en nous et les conditions autour de nous font en sorte qu'elle se manifeste. Et donc, les âmes et les apparitions ne peuvent avoir aucun effet s'il n'y a pas cette graine-là à l'intérieur de nous. De même façon que la colère qui se manifeste est une graine que nous portons à l'intérieur de nous. Et ceux qui sont autour ou l'environnement ou les conditions autour de nous, la voiture qui nous coupe en avant, tout ça, ce ne sont que des conditions extérieures qui touchent nos graines internes et qui se manifestent en colère ou n'importe quoi. Alors, aller tirer sur quelqu'un parce que on l'aime pas ou bien parce qu'il a fait quelque chose ce n'est pas la solution. La solution, c'est revenir en soi, afin de pouvoir identifier les conditions que nous portons à l'intérieur de nous et qui font que cela se manifeste de cette façon-là. Alors donc, l'enseignement du Bouddha, c'était « Don't run away, stay there. » Allez, retournez là. Et après cette histoire, il y avait plusieurs moines qui ont quitté la congrégation parce qu'ils avaient trop peur. Alors cette pratique, ce n'est pas une pratique facile. C'est une pratique qui prend beaucoup de courage. Le courage de pouvoir affronter la bête. Alors il y a plusieurs bêtes qui nous habitent et elles vont se manifester. Et cette pratique, c'est la pratique de pouvoir s'asseoir et la regarder en face. Alors Thay, quand il a enseigné à ses travailleurs sociaux dans le temps de la guerre du Vietnam, lorsque ses élèves étaient assassinés, il leur a écrit un poème. Et le poème, c'est Recommandation. Il dit n'importe quoi qui vous arrive, qu'on vous piétine, qu'on vous étripe, tout ça, ne laissez jamais la haine et la colère se manifester. Parce que c'est indigne de vous. Vous imaginez-vous, ces élèves avaient 20 ans, étaient persécutés, étaient assassinés. Et il leur écrit, il leur dit, même si vous trouvez cela injuste, même s'ils vous piétinent comme des vers, même s'ils vous étripent, ne laissez jamais la haine et la colère se manifester. Mais manifestez l'amour et la compassion à leur égard, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est cela l'amour selon l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Metta Sutta, c'est pour enseigner aux moines comment rester imperturbable, unshakable, devant la peur. Ce matin, nous l'avons lu. Est-ce que nous l'avons lu ce matin? Ah oui, ok, on était en récitation. Merci Gilles, je l'ai trouvé sur notre site web. Super. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Quelle bénédiction que d'avoir Google et Internet, n'est-ce pas? Non, je ris parce qu'il y a une sangha aux États-Unis qui m'a renié parce qu'elle trouvait que je suis trop électronique. Too bad. Non, mais tout ça pour dire, vous voyez comment le serpent peut nous mordre. Tout ce que nous touchons a toujours deux faces à la même médaille. Et Thay nous a tellement appris de par sa vie, par ses exemples. Comme il disait, je suis le premier moine à être en bicyclette, et puis toute l'administration était... Alors dans le temps, les moines étaient supposés seulement marcher, et ils ne pouvaient pas marcher pendant la saison des pluies. Donc pendant la saison des pluies, ils devaient l'éviter pour ne pas toucher le sol. Alors quand les Français qui nous ont occupés ont amené les bicyclettes, ben Thay a trouvé ça très pratique, mais c'était contre les règles et les préceptes. Et maintenant, dans nos retraites, on dit n'apportez pas vos cellulaires, etc. Là, on a un dharma teacher qui en a deux devant moi, et moi j'en ai quatre. Alors on n'est pas de très bons exemples, n'est-ce pas? Ok, donc le discours sur l'amour. Et la raison pourquoi de plus en plus vous me verrez parler dans cette langue bizarre, c'est que j'essaie d'apprendre. J'essaie d'apprendre un nouveau langage pour me rapprocher un peu des enseignements le plus proche de la source que je peux. et surtout pour échapper au piège des mots. Lorsqu'on comprend un mot nouveau, on lui donne le sens que ça a. Okay, anyway. Ça fait perdre le sens. Alors, lorsqu'on parle d'amour, on parle de bonheur, lorsqu'on parle, c'est très difficile de s'entendre parce qu'on peut comprendre quelque chose complètement différent. Mais lorsqu'on parle de metta et on dit c'est ça metta, on va s'entendre. Alors, metta, c'est un mot qui est en pali. Et le mot que nous sommes habitués, ou bien que nous avons déjà appris, c'est maitri. Et maitri, c'est en sanskrit. Alors, donc, il y a ces deux langues qui se ressemblent un peu. Mais, metta, l'amour, selon l'enseignement du Bouddha. Ceux qui veulent atteindre la paix doivent pratiquer régulièrement la droiture, l'humilité, et être capable d'employer un langage compatissant et bienveillant. Lorsque nous avons parlé du bonheur, c'est quoi les conditions de bonheur? L'amour, c'est quoi les conditions? Un des ingrédients les plus importants, c'est la paix. On ne peut pas avoir du bonheur s'il n'y a pas de paix. Et on peut aimer s'il n'y a pas de paix. Donc, la paix, c'est une des conditions essentielles ou primordiales pour... Ils doivent pratiquer régulièrement la droiture. La droiture, c'est-à-dire avoir l'intégrité, l'honnêteté, ne pas avoir trois, quatre faces, mais être authentique. Okay. Authentique, c'est peut-être la bonne traduction. L'humilité. On se répète, je l'ai apporté, un pratiquant qui n'a pas d'humilité est un pratiquant qui est mort parce qu'il n'y a plus rien qu'il peut recevoir et apprendre. Et en plus de cela, c'est aussi pour ceux qui nous entourent. Venir avec humilité en contact avec quelqu'un, c'est plus facile de pouvoir être embrassé et accepté que de venir comme un bully. Alors l'humilité, c'est... L'approche douce, l'approche... Être capable d'employer un langage compatissant et bienveillant. Donc hier, Lily, dans ses partages, nous a parlé qu'on doit commencer par un langage compatissant. Lorsqu'on approche quelqu'un, quelqu'un nous voit pour une première fois, c'est quoi les premiers contacts? C'est l'apparence que nous projetons. Et c'est également les paroles que nous pouvons émettre. Et c'est comme ça que les premiers contacts se font. Et on sait combien un premier contact, ou bien combien un contact peut apporter plein de choses, dépendamment de ce qu'il y a dans cette personne-là. Et ce que nous pouvons, à ce contact-là, évoquer sur l'autre personne, dépend de notre approche et comment nous l'approchons. Alors on parle du miroir. Et lorsque je dis, on vient puis on salue la personne que nous voyons et nous disons, je vous salue, Denise, Bouddha en devenir. C'est très difficile pour quelqu'un qui nous approche de cette façon-là de ne pas se sentir ouvert à cette approche et d'être touché par cette approche lorsqu'elle est droite, lorsqu'elle est vraie. Parce que si on le fait, tous les gestes et puis tout ça, mais on est en train de penser autre chose, bien ça se voit et puis ça se perçoit aussi. Alors donc la droiture, l'humilité et le langage pour rencontrer quelqu'un. Ils savent vivre simplement et heureux. Ils sont en paix, calmes et ont peu de désirs. Et ne se laissent pas entraîner par l'émotion de la majorité. Je pense que c'est encore là très évident parce que c'est difficile d'être. Hier, j'ai entendu le mot léger. Être léger si on n'a pas une vie simple. Si on a plein de problèmes, puis on est toujours en train d'élaborer des plans et des scénarios. Comment être en paix sans vivre simplement? Ou bien comment une vie simple est importante et essentielle pour notre pratique de paix? C'était le premier enseignement que mon maître nous a donné lorsqu'il nous a rencontrés en 1985. Il était venu au Canada sur l'invitation de deux de mes frères et sœurs, et ils s'appellent Chen Wang et Chen Tuyen. Chen Wang était un élève de Thaï dans le temps de la guerre, comme un travailleur social. Et quand il a su que Thaï a établi le village de Prunier comme élève de Thaï, il était allé le rencontrer. Et quand il a pu être en contact avec cet enseignement, parce que dans le temps, quand Thaï était au Vietnam, Thaï n'enseignait pas encore la pleine conscience. Mais c'est quand il s'est exilé, puis avec sa souffrance et avec tout ce qu'il a rencontré, que cet enseignement était né. Alors donc, Chen Wang était aussi un bouddhiste, mais un bouddhiste traditionnel vietnamien, c'est-à-dire qu'il récitait des sutras, puis... Mais la pleine conscience appliquée dans la vie de tous les jours, il ne connaissait pas ça. Alors quand il a été en contact avec ça, il a dit « Waouh, il faut que vous veniez au Canada. » Et dans le temps, Thaï n'était pas très connu, donc c'était facile de l'inviter. Et surtout lorsque c'est un élève comme Chen Wang qui l'invite. Alors donc... À nos débuts, en 1985, Thaï venait ici pour nous enseigner deux fois par an. Et lorsqu'il venait, on était beaucoup moins nombreux que cette communauté. Et j'avais beaucoup de chance. Certain Krong était de la famille. Et ma grand-mère était un supporteur de Thaï. Alors... Il restait chez nous. Et c'était une grande bénédiction. À chaque fois qu'il venait, il restait chez nous. Et il pouvait venir une semaine, mais nos retraites étaient de 2-3 jours. Alors donc, on avait tout ce temps-là avec lui en famille. Et alors donc, on l'a invité pour venir ici pour enseigner la pleine conscience. Et c'est... Donc le premier enseignement que Thaï nous a donné, c'est simplifier votre vie. Et dans le temps, il nous enseignait... il était en train d'écrire aussi sur les traces de Siddhartha. Et il nous racontait des histoires, les petites histoires qu'on retrouve maintenant dans ce livre. Et il nous a enseigné la pratique du relâchement des vaches. C'est l'histoire du Bouddha dans le temps qui se promenait avec ses moines. Et sur le chemin, ils ont rencontré un paysan qui était très désespéré d'avoir juste perdu tout son troupeau de vaches et son champ de maïs. Donc il était vraiment désespéré et... Et il a demandé au Bouddha, « Avez-vous vu mes vaches ?» Et le Bouddha dit, « Non, je n'ai... Non, peut-être par là. » Puis là, ok. Puis là, il court dans tous les sens pour essayer de retrouver ses vaches égarées. Et là, le Bouddha s'est retourné vers ses moines et ils lui ont dit, « Vous voyez comment vous êtes... Vous pouvez être heureux parce que vous n'avez pas de vaches. » Et... Donc, les premiers enseignements que Thaï nous a donnés, c'est ça. Parce qu'on était dans la trentaine et des familles, puis des investissements, puis les préoccupations normales. Et c'était évident qu'on est très stressé. Et c'était aussi évident que, avec toutes ces occupations, on ne pouvait pas non plus se donner beaucoup de temps pour pouvoir être en paix ou bien pour pouvoir pratiquer la méditation. Alors donc, vivre simplement et heureux, en paix, calme, avec peu de désir, et ne pas se laisser entraîner par les émotions de la majorité. Ça, c'est encore plus difficile. Ne pas se laisser entraîner par les émotions de la majorité. On vit dans une société de consommation. On est entouré de messages. Donc, tout nous porte à... C'est comment regarder cela, puis dire, non, vous ne pouvez pas m'avoir. Reconnaître que ce n'est qu'un hameçon, ou bien que cet appât si appétissant cache un hook, et ça peut nous, on peut y perdre notre peau. Je pense à l'exemple que Thay nous a donné pour illustrer le plaisir et le désir. Non, c'était dans une retraite aussi aux États-Unis, et Thay m'a demandé d'aller en ville pour lui acheter des appâts pour la pêche et des os en plastique. Je ne savais pas pourquoi, parce que Thay ne va pas à la pêche et Thay n'a pas de chien. Pourquoi acheter ça? Et j'ai dû quitter la retraite quelques jours après. Quand j'étais revenu, on m'a dit, tu sais ce que Thay a fait avec ce que tu as acheté? Non, c'était son dharmatalk sur les désirs. Et là, il a pris l'hameçon, puis il l'a montré. Regardez, si vous étiez un poisson, comment vous pourriez être attiré par cette chose-là qui était brillante, pleine de couleurs, puis peut-être même avec des odeurs de je ne sais pas quoi. Et pour un poisson, c'est quelque chose qui est merveilleux. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a un hameçon qui est attaché avec. Et puis en le mordant, il y perd sa peau, il y perd sa vie. Donc hier, j'ai entendu parler de volition. C'est quoi notre volition? Vers quoi est-ce qu'on est en train de courir? Donc l'objet de nos désirs peut nous amener à une vie difficile. Et donc c'est difficile d'être en paix. On risque même d'y mourir. Donc c'est ça l'enseignement sur les désirs. Et c'est également une des conditions pour pouvoir pratiquer l'amour, pour pouvoir avoir l'amour. Le sutra, le Metta Sutra, est merveilleux. Non, il est pas mal. Il est divisé en deux parties. Alors, la première partie que nous venons de voir, c'est les conditions dans lesquelles nous devons être pour pouvoir pratiquer cet enseignement. Donc, une vie simple, être en paix, sans trop de désir, pour nous mettre dans des conditions favorables à la pratique de l'amour. Qu'il ne fasse rien qui soit désapprouvé par les sages, et voici ce qu'il contemple en permanence. Alors, la suite, la deuxième partie du sutra, c'est ce que nous connaissons comme la méditation sur l'amour. Le Metta Sutra, Maitri Meditation, la méditation sur l'amour. Que tous les êtres soient heureux et en sûreté, que leur cœur soit rempli de bonté et de liberté. Que tous les êtres vivants soient en sécurité et en paix, les êtres frêles, forts, grands, petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, déjeuner ou encore à naître. Que personne ne tue, etc. Donc ce sont des vœux que nous envoyons. Des vœux de well-wishing. On leur souhaite qu'ils soient en paix, on leur souhaite d'être dans la bonne action, tout ça. Donc ce sont les vœux que nous transmettons à tous ceux qui sont là autour. Alors, on se remet dans l'époque des élèves du Bouddha qui étaient entourés de d'âmes malveillantes, ou bien non pas malveillantes, mais qui avaient peur et qui ne voulaient pas se faire déranger, donc ils se manifestaient pour. Alors donc c'est envoyer l'amour à toutes ces êtres qui sont autour et qui ont peur de perdre leur ou bien d'être dérangés, etc. Laissons notre amour infini se répandre dans le monde entier, au-dessus, en dessous et dans chaque direction. Notre amour n'aura aucun obstacle. Notre cœur sera complètement libéré de toute haine et animosité. Ça me rappelle une pratique tibétaine. Il s'appelle le Tonglen. Et les amis qui ont pratiqué avec les Tibétains le connaissent. Ils disent « inspire la souffrance et expire la bonté ». Et dans le temps, Sœur Annabelle, qui venait de nous arriver, était une pratiquante tibétaine. Et quand elle a connu Thaï, Thaï l'a invitée à venir au village des pruniers. Elle est frêle, elle était encore plus frêle dans ce temps. Et Thaï, puis elle était jeune, puis elle voulait apprendre, parce qu'elle a entendu parler de Thaï, puis « Thaï, je veux que vous m'enseigniez. » Thaï lui a dit « Oh, repose-toi, va dormir. » « Oui, mais je veux pratiquer la méditation. » Et elle avait un background de tibétain et de japonais, donc c'est du monde qui pratique très sérieusement. Et pour elle, c'est cela la pratique, c'est se mortifier, c'est se mettre dans des conditions difficiles, et plus c'est difficile, plus mieux tu vas avoir. Et c'est ça qu'elle faisait. Alors Tonglen, elle voulait tellement émettre d'amour et inspirer tellement de souffrance qu'elle était très mal en point. Alors donc c'était une personne qui était... quand elle a rencontré Thaï, Thaï lui a juste dit « Oh, va te reposer, va jouer !» Et lorsqu'elle a commencé à se rétablir un peu, c'est là que Thaï lui a enseigné. Thaï lui a dit « Comment peux-tu donner de l'amour si tu n'en as pas à l'intérieur de toi ?» Et comment tu peux envoyer de l'amour aux autres si tu n'en as pas pour toi? Et vous voyez comment ça ressemble à l'enseignement du Bouddha. Quand le Bouddha a failli mourir et que cette jeune fille était venue pour lui donner un peu de lait pour qu'il se rétablisse. Alors c'est le Bouddha. Alors Thaï est devenue la jeune fermière, et Sœur Annabelle, c'était le Bouddha que Thaï a réveillé. Et maintenant, c'est un de nos meilleurs enseignants. Alors donc, ce sutra, le Bouddha a enseigné à ses moines d'envoyer leur amour autour, en dessous, dans les 10 directions. Mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire ce qui est enseigné ici, il nous faut nous mettre dans les conditions pour pouvoir le faire. Et la première partie nous donne les conditions dans lesquelles nous devons nous mettre pour pouvoir pratiquer cet enseignement. Alors c'est avoir une vie simple, c'est se mettre dans des conditions pour avoir de la paix, etc. Et c'est quoi la différence avec ce que nous faisons ici? Une vie en pleine conscience. Être présent avec ce que nous faisons, regardons ce que nous, etc. Donc cette vie en pleine conscience que nous voulons faire, ou bien l'art de la vie en pleine conscience, nous met dans des conditions pour pouvoir nous occuper de nous, pour pouvoir nous aimer, afin de pouvoir envoyer notre amour à tous les êtres. Et l'amour, selon l'enseignement du Bouddha, comporte quatre qualités. Okay. Le terme en sino-vietnamien, c'est tu vô lượng tâm. Les quatre incommensurables. Et mon nom du dharma, c'est le cœur, okay, whatever. Et on dit que lorsque un maître donne un nom, c'est pour ce qu'on aspire à, c'est pas pour ce qu'on est. Et je suis en train encore d'aspirer. Donc, je suis en train de respirer, donc, me souvenant d'aspirer à cela. Donc l'amour infini, l'amour selon le Metta Sutra. Et ces quatre composantes, ces quatre états sont Maitri, ou l'amour bienveillant, ce désir de vouloir offrir de la joie à quelqu'un dans la matinée. Karuna, à soulager la souffrance de quelqu'un dans l'après-midi. Mudita, ou se réjouir du bonheur des autres. Upeksha, qui est l'équanimité. Alors l'amour, selon l'enseignement du Bouddha, comporte ces quatre éléments. Et lorsque nous regardons un amour qui ne comporte pas tous ces quatre éléments, ce n'est pas un amour qui est complet. Et cet amour complet, c'est ce qui est enseigné. Et lorsque vous parliez hier, c'est quoi l'amour dans la tradition? C'est ceci. Et puis, upeksha, équanimité, et aussi un enseignement du Sutra du Diamant. Aimer sans discrimination. Aimer sans condition. Nous nous aimons, mais nous nous aimons parce que nous sommes dans le même groupe, parce que nous avons le même maître, parce que nous avons le même chemin, etc. Alors ce n'est pas un amour très bouddhiste, parce que cet amour-là est encore... Il y a une séparation, il y a une... Et puis on parlait des signes. Aimer au-delà de, en dépit de... Et qu'est-ce que le sutra du diamant nous enseigne sur cela? Vous souvenez-vous des quatre notions que nous voulons nous débarrasser? Il y a le soi. Et le soi, c'est quoi? Le soi qui nous définit. Et aussitôt qu'on définit quelque chose, il y a les autres choses. Alors lorsqu'on parle de bouddhiste, et qu'on dit « je suis bouddhiste », on vient de tomber dans ce piège et on n'est plus équanime. Parce qu'aussitôt qu'on parle de bouddhiste, il y a la notion de non-bouddhiste qui sort. Et Thay nous donne un exemple sur la sagesse du sutra du diamant, la non-discrimination et la non-dualité, en prenant sa main droite comme exemple. Il dit, ma main droite est merveilleuse. Elle peut faire des calligraphies, elle peut écrire des poèmes. Ma main gauche ne fait rien. Elle peut juste tenir le papier de temps en temps pour aider l'autre à écrire. Mais elle est vraiment pas aussi bonne que la main droite. Mais lorsque la main gauche... Et puis là, il prend l'exemple du clou. Il n'est pas très habile à faire des travaux. Là, il prend un clou, il essaie d'accrocher un cadre. Et il manque son cou. Et sa main gauche reçoit le marteau. Ouch! Alors là, la main droite vient tout de suite le tenir et réconforte la main gauche. Il dit que la main droite et la main gauche n'ont aucune discrimination. Elles s'occupent naturellement de la main gauche lorsque la main gauche souffre. Sans se dire, moi je suis la droite et puis je suis beau, je suis bien, je suis... Puis toi, t'es bon à rien, tu fous rien. Il n'y a aucune discrimination. Et c'est tout à fait normal et naturel lorsque la main gauche est blessée que la main droite vienne sans penser, sans rien. Et c'est cela la non-discrimination et l'amour selon l'enseignement du Bouddha, le Upeksha. Aimer sans discrimination. Aujourd'hui, pendant que vous étiez en famille, j'ai eu une très belle conversation avec Diane et c'est le même message que j'ai reçu. Lorsque Diane s'occupe de son petit-fils, elle le fait naturellement, sans aucune arrière-pensée. Elle le fait juste parce que elle doit le faire. Et quand je dis doit, ce n'est pas un devoir. C'est tout à fait normal et naturel qu'elle le fasse, et c'est comme ça qu'elle le fait. Et ça m'amène, ça m'a ramené à la notion de non-discrimination qui est enseignée dans le Sutra du Diamant. Dans le Sutra du Diamant parle des bodhisattvas. C'est quoi un bodhisattva? Il doit y avoir un T en trop ou bien en moins, un H qui n'est pas à la bonne place, mais ils sont bizarres ce monde. Donc un bodhisattva, c'est un être éveillé. Hier, Lily vous l'a mentionné, Pierrette qui ne peut pas dormir. Quelqu'un m'a demandé d'être humoristique, là je le suis, puis là personne ne rit, c'est quoi le problème? Vous êtes trop sérieux. Donc un être éveillé qui choisit de revenir dans ce monde pour pouvoir servir. Alors parce qu'il est éveillé, il a cette capacité d'aimer sans discrimination. Et parce que c'est un bodhisattva qui sait aimer sans discrimination, il a l'attention du Bouddha. Et le Bouddha le voit, et il voit le Bouddha. Do you see the Buddha? Do you see the Buddha? Can you see the Buddha? If you were a bodhisattva, you would be able to see him. Vous savez que vous êtes un bodhisattva lorsque vous pouvez voir le Bouddha. Beaucoup de pratiquants se demandent, c'est quoi un être éveillé? Quand est-ce que je saurai que je suis éveillé? Et la réponse est dans le Sutra du Diamant, lorsque tu peux voir le Bouddha. Pourquoi? Parce que le Bouddha donne toute son attention au bodhisattva. Et parce qu'il donne son attention au bodhisattva, il regarde et surveille le bodhisattva. Et parce qu'il regarde et surveille le bodhisattva le voit. Je vous regarde, vous me voyez. Vous me voyez les yeux, je vous vois les yeux. De la même façon que si le Bouddha vous regardait, vous pourriez voir le Bouddha. S'il ne vous regarde pas, vous ne pouvez pas le voir. Comment est-ce qu'il va vous regarder? Il vous regarde. Parce que vous êtes un bodhisattva, lorsque vous êtes un bodhisattva, il vous regarde et vous le voyez. Alors le bodhisattva, c'est cet être éveillé, plein d'amour, qui revient sur cette terre de souffrance pour pouvoir aider, à transporter tous les êtres vers l'autre rive. Et le bodhisattva travaille sans arrêt, sans relâche, il ne se fatigue jamais et il fait le vœu de ne pas quitter cette terre tant qu'il restera encore des âmes à sauver et à transporter vers l'autre rive. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette image. Le bodhisattva qui sauve personne, âme après âme, être après être, à traverser la rive. Et qui ne se lasse jamais. Et qui sait qui fait le vœu de rester là tant qu'il y aura encore des êtres à sauver. Mais il le fait dans quel esprit? Il le fait sans s'attacher au son, aux formes, etc. C'est-à-dire qu'il le fait dans un esprit de parfaite équanimité. Il ne le fait pas parce que cette personne est d'une certaine race ou d'une certaine couleur. Il le fait de la même façon que la main droite s'occupe de la main gauche lorsque la main gauche est en train de souffrir. Comment est-ce que je peux apporter le paramita? Il ne compte pas. Et il ne voit pas que la personne qui est sauvée et la personne qui sauve soient différentes. Je pense que ça devient compliqué. Le Bodhisattva, lorsqu'il pratique à amener le monde vers l'autre rive, vous souvenez-vous, lorsqu'on a parlé hier de paramita, paramita, c'est les moyens pour pouvoir traverser vers l'autre rive. Et ce que le Bodhisattva fait, c'est d'amener tous les êtres vers l'autre rive. Et comment est-ce qu'il peut le faire? Il le fait en pratiquant cela, c'est-à-dire traverser. Et pour traverser, il y a 6 façons que les Bodhisattvas pratiquent. Et ça s'appelle les 6 paramitas. Et les 6 paramitas commencent par le Dana Paramita. Et le dernier, c'est celui qu'on a déjà vu, le Prajna Paramita. Dana Paramita, c'est la pratique du don. Le Bodhisattva pratique le don. Qu'est-ce qu'il donne? Il y a beaucoup de Bodhisattvas ici. Ils donnent leur temps et leurs ressources matérielles. Je ne sais pas quand vous êtes arrivé, mais Lily a travaillé sur cette retraite depuis le printemps. Et lorsque je dis depuis le printemps, je n'oublie pas que ce printemps a été déjà depuis 2004. Et elle travaille sans relâche. Et lorsque je vous ai parlé de concentration, c'est la pratique de Lily. Elle est seulement corps et âme entier dans ce don d'elle-même, ce don des ressources matérielles. Parce que Lily dépense beaucoup d'argent pour organiser les retraites et les journées de pleine conscience. Et je la chicane. Je lui dis, Lily, donnez-nous vos factures pour qu'on puisse au moins contribuer au papier que vous utilisez. Et, mais non. Elle change de téléphone à toutes les... aussitôt qu'il y a un nouveau qui sort. Et puis vous voyez pourquoi? Parce que c'est toujours on. Alors les batteries ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'elle doit changer. Mais qu'est-ce qu'il occupe avec cette chose-là? À 80% du temps, c'est les choses de sangha. Alors donc, le don de son temps, le don de ses ressources matérielles, c'est le dana. Gilles, qui a aidé à toute assemblée déménager ici, et qui va encore travailler à les ramener au centre. Et il a fait ça 19 fois en 9 ans. Et c'est cela la pratique du don de ressources matérielles, du don de son temps. Et dans le Dana Paramita, cette forme de don est le premier niveau de don. L'autre niveau de don qui est plus précieux, c'est le don du Dharma. Le don de l'enseignement, le don de la pratique. Et c'est ce que cette communauté, nous avons reçu la pratique et nous la partageons. Et ça fait partie du Dana Paramita. Et nous avons beaucoup de bonheur et de plaisir à partager notre pratique. Et c'est le deuxième niveau de don. Le troisième niveau de don, c'est la non-peur. Et c'est le niveau de don le plus élevé. Vous souvenez-vous les conditions dans lesquelles le sutra a été donné? Pourquoi le sutra a été donné? La peur. Et c'est quoi que le Bouddha leur a donné? Le dharma, la leçon et la non-peur. Parce qu'en pratiquant l'enseignement du Bouddha, ils ont pu apaiser toutes les âmes autour d'elles et les âmes ont été converties. Excusez, mauvais mot. Mais ils ont pu transcender la peur. Ben, premièrement, ils ont apaisé tout l'environnement, puis ça les a sortis de leur peur. Alors donc, le don de la non-peur, le don du dharma, c'est ce que le Bouddha a donné à ses élèves, à ses monastiques, et aussi à l'environnement dans lequel il était pour apaiser toutes ces âmes. Donc vous voyez-vous comme Bodhisattva? David offre le dharma les jeudis. Et c'est ça qu'il fait. Donc ne sous-estimez pas le rôle que vous jouez. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes. Vous êtes de Bodhisattva. Et vous êtes en train de pratiquer le Dana Paramita. Le dana qui vous permet de pouvoir traverser les océans de souffrance et arriver à la rive de la libération. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Mais pratiquer le dana paramita dans l'esprit du bodhisattva peut être très différent de la façon dont on comprend ou bien on peut le faire. Et c'est pour ça que être un bodhisattva, c'est pouvoir faire ses pratiques, ses dons, mais le faire dans l'esprit du sutra du diamant, c'est-à-dire de le faire dans la non-discrimination, en prenant exemple de la main droite qui s'occupe de la main gauche, sans penser, je suis celui qui donne et tu es celui qui reçoit. Mais le faire tout simplement comme Diane le fait pour son fils et pour son petit-fils. Et cela, l'amour infini, et c'est cela l'amour sans discrimination. Et c'est cela l'enseignement du Sutra du Diamant. Et c'est la voie du Prajnaparamita, c'est la voie de la libération par la compréhension. La voie de la libération par le don. Et il y a quatre autres façons, quatre autres chemins qui nous mènent vers l'autre rive. Et que nous ferons à la prochaine retraite. Merci beaucoup, c'était une belle retraite. Et je suis très content d'avoir pu vous partager cela. C'est Sutra du Diamant, c'est un grand sutra, c'est un gros sutra. Et j'ai vraiment essayé de l'amener le plus proche de nous que je le pouvais. Et j'espère que j'ai pu le faire.